Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du samedi 31 janvier 2026. On clôture le mois avec un quatrième mois consécutif dans le rouge pour Bitcoin, 83 600 $, Ether qui repasse sous les 2700. Et encore que pour l'instant, les crypto-bros pourraient s'estimer heureux quand on voit la descente à date du côté de l'or et du silver pour les métaux précieux. Et on va voir ça dans un instant. Monero recule de 5,50 sur 24 heures, 28 sur la semaine. On a des reculs parfois à deux chiffres, hein, déjà du côté des Alcoin, bien que c'est pas eux fondamentalement qui se font le plus malmener actuellement. On a Hyperliquid qui est toujours autour de 31 $ et à la 19e place. Et quand on recule jusqu'au top 60, comme on l'avait vu la dernière fois, le bas du classement avec du Algo, Midnight, Render sont sous le milliard de capitalisation. Donc ça continue d'épurer pour l'entièreté du marché crypto. Notre partenaire Swissborg au rang des PSAN qui, pour la zone européenne, vous permettra d'investir, de staker et de faire bon nombre d'autres choses sur l'application. N'hésitez pas à aller les découvrir et notamment pour tout ce qui est crypto bundle, puisque vous pouvez acheter, vendre avec un prix d'exécution qui systématiquement va chercher sur les échangeurs centralisés et décentralisés le meilleur prix pour vous. Et vous avez l'auto-investissement pour ceux qui veulent faire du DCA et les crypto bundles qui vous permettront, notamment pour l'un d'entre eux, d'investir sur Bitcoin et l'or et d'avoir un ajustement au travers du temps qui vous permettra d'en tirer le meilleur parti. Donc n'hésitez pas à découvrir Swissborg et on passe à la suite donc avec les informations. Et on a pas mal de choses à dire aujourd'hui puisque ça va être plutôt dense avec le silver qui a reculé sur cette semaine, en tout cas par rapport à la semaine dernière, de moins 33%. Je crois que même ça a reculé encore un petit peu au cours de cette nuit et on va le voir dans un instant au niveau de l'analyse technique qu'on était entre moins 35 et moins 38. Le gold n'est pas en reste bien entendu, mais quand on voit sur de telles capitalisations un mouvement de panique comme ça qui a été déclenché une fois de plus par les acheteurs à levier, eh bien on peut se demander légitimement où va aller le cours donc des métaux précieux, en tout cas pour les prochains mois et les prochaines semaines. Bob Lucas qui nous met en avant que le BTC avec 4 mois d'affilée de baisse, ça, c'était quelque chose qui n'était même pas arrivé en 2022. On avait fait 3, 2 de rebond, 3 et derrière, voilà, on avait la digestion en 2023 ici. Et donc historiquement, on a tendance à finir la course quelque part entre moins 70 à moins 90%, à ceci près qu'on a pu observer au travers du temps que le cours du Bitcoin tend à avoir une volatilité de moins en moins grande, que ça soit à la hausse ou à la baisse. Donc quand on prend en considération tout ce qui s'est passé en 2022, FTX, Terra Luna, la crise de confiance, les banques, l'administration présidentielle de ce moment-là qui n'était pas forcément pro-crypto, ça faisait quand même pas mal de choses et on a reculé de moins 77% du côté de Bitcoin. Aujourd'hui, Bob Lucas vise une fourchette, comme on en a discuté souvent sur la chaîne, entre 40 000 $ et autour de 55 000 $ en fonction des événements du moment et de si Michael Saylor se met à vendre, etc. Et tout le narratif qu'il y aura autour de cette période. Je vous donne quelques chiffres dans quelques instants un peu plus étayés. Apple qui explose les attentes des analystes, c'était le média de l'investisseur qui révélait le chiffre d'affaires de quasi 144 milliards contre 138 attendus, en hausse de 16% sur un an. Bénéfice net de 42 milliards contre 36 milliards il y a un an. Donc malgré les gros titres parfois du côté des réseaux sociaux que Apple ne vend plus assez d'iPhone ou que sais-je, eh bien le CEO parle d'une demande stupéfiante. Donc on verra si 2026 va continuer sur cette lancée. L'administration Trump qui promeut Kevin Warsh à la tête de la Fed, la Federal Reserve. Donc ça devrait être acté dans les prochaines semaines avec un départ de Jerome Powell autour de mai 2026. Donc là aussi, on va voir comment on va interpréter les marchés à ce niveau-là. Après la capitulation des derniers entrants, Bitcoin, comme son habitude lors des précédents bear markets, vient ensuite capituler par les mineurs qui débranchent, à ceci près que, pour la première fois, beaucoup jettent l'éponge pour un autre business, l'intelligence artificielle. Et donc, c'est très intéressant dans ce monde où chaque dollar dépensé lié à l'énergie doit trouver justification. Plus que jamais, le prix d'un Bitcoin sera lié à son coût énergétique hors des périodes intenses de spéculation, les fameux bull runs, et qui, elles, demeurent par nature, comme pour n'importe quel autre marché, cyclique. Donc en termes d'objectifs, comme on l'a vu tout à l'heure, d'un point de vue technique, on pourrait venir quelque part entre 40 et 50 000 $ si vraiment ça se gâtait. Les plus optimistes se disent qu'on arrivera à tenir autour de 70 000, et c'est pas une zone anodine, 70 000, puisque 69 000 aujourd'hui, c'est le coût moyen de production d'un bitcoin au travers de la planète, et le coût le plus bas est autour de 55 000. toujours sur une moyenne qui va s'ajuster au travers du temps. Donc on est en train de voir en simultané une énorme capitulation des mineurs. C'est un énorme drop qui est en train de se réaliser au niveau du hash rate et c'est quelque chose qu'on observe pareillement en fin plutôt au milieu de bear market avec la capitulation des particuliers qui pour les holders moyens et long terme vient en toute fin de ce dernier. Donc en général c'est un acte en trois temps, un peu comme au théâtre. Premier acte, les derniers entrants qui paniquent et qui vendent immédiatement, qui déclenchent le premier moins 20, moins 30. Pendant des mois, ça digère, voire ça distribue, que ça soit les institutions, que ça soit les gross whales. Et on a les mineurs dans l'entre-deux sur le champ de bataille qui, pour les moins profitables d'entre eux, sont en train de débrancher et qui plus est avec ce sujet de l'IA aujourd'hui où c'est peut-être plus intéressant pour eux aussi de réallouer des flux, des capitaux, voire de la puissance de calcul vers ce nouvel Eldorado, comme on pourrait l'appeler pour l'IA. Et aujourd'hui, donc, on a un coup qui nous rappelle à la réalité que, eh bien, dans ce monde où chaque chose doit être à sa place et chaque chose doit aussi montrer patte blanche de ce qu'elle coûte par rapport à ce qu'elle peut rapporter, eh bien, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut se fier à ça quelque part, d'avoir un coût moyen bas de Bitcoin qui est autour de 55 000 $. Et là où ça nous donne un peu du grain à moudre de notre côté, c'est que on a l'analyse technique qui corrobore plutôt pas mal ça, avec une moyenne mobile 200 semaines, comme vous le savez aujourd'hui, qui se trouve autour de 58 000 $, 59 000 $. Donc on va dire, allez, la fourchette normale, entre guillemets, si le bear market se passe à peu près bien, 50-60 000. Et pour les optimistes qui pensent que, comme on n'a pas eu un bull run d'anthologie, eh bien, on n'aura pas un bear market non plus d'anthologie, ça se passerait entre 55-60 à 70-75 dans ces eaux-là. Donc, j'essaie de donner des fourchettes qui soient entre 10 000 et 20 000 $, ce qui, pour un actif qui est venu chercher 125 000 $, n'est pas déconnant, il me semble. Et ça vous donnera comme ça la possibilité de votre côté d'évaluer à quel moment vous voulez appuyer potentiellement si vous faites un DCA. L'action de MicroStrategy est en train de perdre le support. On est venu nettoyer autour de 130 $ en rebond, autour de 140 et des brouettes en clôture. Donc on va voir là aussi si on arrive à se raccrocher à ce support ou si on aura besoin d'aller un petit peu plus bas. En tout cas, comme MicroStrategy, l'action a lead le bear market crypto sur ce cycle de 2025, eh bien on pourrait voir aussi plus tard peut-être le signal annonciateur lorsque cette action se renversera, avant même peut-être que Bitcoin se renverse lui-même. Toujours un graphique qui, d'un point de vue technique, nous démontre le bear flag, c'est ce qu'on avait vu sur la chaîne, et qui pourrait nous conduire en horizon technique pur autour de 45 000 $. Là aussi, ça a toujours été le leitmotiv de la chaîne, le fil rouge. On essaie de lier les fondamentaux, le macro, à tout ce qui va être technique, et la technique est juste là pour nous donner un cadrage, bien entendu, pas pour essayer de faire de la prémonition. Robinhood qui va établir donc et activer le trading 24/7, notamment pour tout ce qui est actions tokenisées. Donc ça, on est en train d'y venir en grande pompe. Hein. On va avoir les marchés actions qui seront ouverts dans tous les cas 7/7, 24/24. La Fed qui a décidé, donc toujours sous les dernières interventions de Jérôme Powell, de ne pas baisser les taux à nouveau. Donc on est en pause autour de 3,50, 3,75. On verra avec l'arrivée donc du nouveau chairman de la Fed comment vont se passer les choses, à supposer que voilà, il reste indépendant, bien entendu. On va avoir cette continuité de la pression de l'administration Trump et le tout avec des marchés qui sont plus volatiles que jamais, même jusqu'aux métaux précieux. Et cette année des midterms, donc on n'est pas au bout de nos surprises. On y reviendra ce lundi. Ça sera un peu le gros sujet de lundi avec Tether, la machine à cash, puisqu'en 2025, ils ont dégagé entre 10 et 15 milliards de profits selon les estimations, 141 milliards de bons au trésor. Ils détiennent également 140 tonnes d'or, estimé à 23 milliards de $, un peu moins maintenant que ça a reculé. Côté Bitcoin, ils en ont presque 100 000, 96 000 pour être précis, 8,5 milliards, et ils prévoient d'allouer dans les prochaines années 10 à 15% de la trésorerie totale en gold. Donc on fera un petit aparté lundi pendant quelques minutes autour de Tether pour voir d'où ils viennent, où ils vont, et surtout la cash machine que c'est devenu, avec notamment un revenu par employé qui est juste stratosphérique. Petit hors-sujet du week-end avec Vince Gill, Gilligan, donc, qui est à l'origine de Breaking Bad, mais pas que, puisqu'il y a Better Call Saul et Pluribus désormais. Et il y avait cette petite vidéo qui circulait, j'ai trouvé ça plutôt sympa, sur la photographie et les plans qui sont proposés régulièrement donc, par le producteur-réalisateur. Et c'est vrai que c'est quelque chose, peut-être avec le temps, auquel on fait un peu plus attention, la qualité à la fois d'image, à la fois de narration, de musique et les plans en tant que tels, pour ceux qui aiment comme ça un petit peu le cinéma. Donc je trouvais cette petite vidéo sympa, et pour ceux qui n'ont pas vu ces trois séries, bien entendu, je pense qu'elles valent totalement le détour. Flasher qui nous met en avant un nouvel ETF BlackRock qui est en train d'arriver. C'est un ETF Bitcoin, mais pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit du iShares Bitcoin Premium Income ETF. Alors vous allez me dire, autour de ce nom à rallonge, qu'est-ce qui se cache concrètement? Eh bien, ça vise à avoir un revenu mensuel via une stratégie covered call. Le fonds détient du Bitcoin, il vend des options d'achat dessus et il encaisse une prime chaque mois. On va voir comment ça se matérialisera, on va le laisser se lancer et surtout avoir toute la documentation, et on vous refera un petit point, puisque c'est clair qu'avoir un ETF Bitcoin qui en plus peut se couvrir un petit peu contre les fluctuations et vous reverse une prime tous les mois, que demande le peuple? Grégory Raymond, avec la BCE qui acceptera les actifs tokenisés en garantie à partir du 30 mars, une banque commerciale européenne pourra par exemple contracter un prêt en mettant en collatéral des obligations émises sur la blockchain. Donc tout ce qui est RWA, actions tokenisées, voilà, tout le tutti quanti, c'est le sujet de 2026, c'est le narratif. Et le plus triste là-dedans, c'est que c'est quelque chose de très important pour cette industrie, mais ça sera clairement pas ce qui va exciter le plus, bien entendu, la populace ou les retail du côté du marché crypto. Au niveau du gold, toujours, on venait de chercher quasiment les points hauts de 1980, donc liés à tout ce qui est liquidité, et notamment du côté des États-Unis. Donc bien entendu que là, on a touché un plafond qui n'est pas un petit plafond pour le coup, et le tout avec un euro-dollar à 1,20$. Donc on avait 96 pour le DXY, et c'est clair que là, vraiment, ça a été quelque chose d'assez extraordinaire ces derniers jours. Et donc passons à cette fameuse analyse technique avec un silver qui est à 85$, donc si on mesure de mèche à mèche. Et on va faire l'analyse de ce week-end, contrairement à d'habitude, qui est en hebdo, en mensuel ce coup-ci, et donc on est sur un recul de moins de 30% pour le silver. On recule de 17% en journalier pour le platine et de moins 16% pour le palladium. Donc en provenance des 2100, on est de retour à 1680. Ça a tenu pour l'instant les grosses moyennes mobiles, mais bon, force est de constater que quand on regarde même du côté du gold, on a fait une descente ADA des 5600 quasi dollars à 4900. Donc ça commence à piquer un petit peu. Et même pour ceux qui étaient très optimistes du côté des métaux comme Bob Lucas, etc., puisqu'il avait pas mal prédit depuis 2022, je suis allé revoir un peu les statuts qu'il empile au travers du temps, et c'est vrai que ça a fait partie de ceux qui ont vraiment pas mal mis en avant le gold très tôt, ce qui nous a permis nous aussi parfois sur la chaîne. Dès 2022, on a fait un partenariat notamment avec Gold Avenue. Alors j'aurais préféré parfois vous mettre plus en avant justement les métaux précieux ou des partenaires vis-à-vis des métaux depuis 2022 que des partenaires crypto qui pour la plupart se sont révélés souvent infructueux, ou tout simplement ont changé de direction, ou certains partent avec la caisse, ou il y a des dirigeants crypto qui changent de projet comme de chemise tous les un an ou deux. Donc c'est clair qu'à la fin, c'est très difficile de faire confiance à quelqu'un et de perdurer au travers du temps. Il y a des projets, bon, on le voit assez rapidement, au bout d'un an ou deux, ça périclite et voilà, ils ont essayé et c'est pas bien grave. Il y a des projets, ils sont là 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, on commence véritablement à y croire, à faire totalement confiance à l'équipe, etc. Et derrière, il y a toujours soit des carabistouilles, soit des trucs qui sont pas tout à fait clean. Et c'est là où on se demande à qui on peut totalement faire confiance dans cette industrie. Et j'ai bien peur que tant qu'il y a de l'argent au milieu, malheureusement, et on le découvre à nos dépens au travers du temps, eh bien, on peut jamais totalement faire confiance, malheureusement, aux personnes. Et c'est peut-être la chose à retenir la plus profonde, au final, du moment qu'on place notre argent quelque part. Il faut systématiquement vraiment faire des recherches tout en profondeur, prendre le temps, ne pas céder aux sirènes et aux appels des réseaux et aux FOMO. On en discutait encore la dernière fois avec quelques investisseurs, notamment sur le Discord et tout ça, ou même nous, avec maintenant 8 ans dans le marché crypto, on en a quelques-uns aussi comme ça qui ont des 10-15 ans en bourse traditionnelle avant d'être par la suite arrivés au marché crypto, et ça nous arrive, voilà, de péter un câble et de FOMO parce qu'il y a une belle pépite sur les réseaux, parce que telle action est mise un peu plus en avant. C'est tout à fait humain, et c'est quelque chose qu'il faut faut comprendre, qu'il faut appréhender, et un biais qui est profondément humain, qui a envie d'avancer, qui a envie d'un petit peu mieux, qui a envie aussi parfois d'euphorie, et contre lequel il faut savoir lutter pour petit à petit acheter, justement quand on est inconfortable, quand le marché baisse énormément et que c'est le moment de passer à la caisse. Et à contrario, exactement comme c'est en train de le faire du côté des métaux précieux, savoir sortir à bon compte quand tout est en train de s'illuminer comme un sapin de Noël. Il est à noter également que le Nasdaq a clôturé à moins 1,28, mais pour l'instant c'est anecdotique. On a également le S&P 500 qui a clôturé à moins 0,43, pareil c'est anecdotique. En tout cas, quand on voit la descente que nous ont fait les métaux précieux. L'Eurostox 50, lui, pour l'instant, pas plus, pas moins, moins 0,12. Ça a clôturé, bien entendu, avant les États-Unis. On a les taux, notamment les taux longs, qui continuent d'être hauts, le 30 ans, à 4,90. Statu quo pour l'instant, peut-être dans l'attente, justement, de voir ce que va nous faire le nouveau chairman de la Fed. Côté France et PEA libérés en euros pour les World, eh bien, ça avait clôturé plutôt positif, puisqu'on était à 0,70 pour le CAC 40, le CW8 et le WPEA, pareil, 0,70, le DAX à 1% et le DXY, le fameux dollar américain qui est venu balayer très bas, 95,57 et qui clôture à 97. Donc clairement, le dollar va pas finir à zéro et on a une moyenne mobile 200 au pire du pire qui est autour de 92. Donc je suppose que ça pourrait faire office de support dynamique. Ceci étant dit, à l'époque, notamment sous l'ère ici Obama et avant Obama, je sais plus qui c'était, si c'était Clinton en 2002 ou quelque chose dans ces eaux-là, j'ai pas tous les présidents américains en tête. Donc 2002 à au début de Obama 2008, eh bien on avait eu ici une descente du DXY qui était passée de 120 à autour de 70. Donc imaginez un peu le délire quand en 6 ans de temps, avec au milieu certes la crise qu'on avait connue de 2008, le dollar avait reculé de 41%. C'est complètement fou quand on est censé avoir une monnaie qui représente justement la stabilité. Et c'est typiquement ce qui est en train de se jouer au niveau des métaux précieux aujourd'hui. C'est une crise de défiance envers le dollar, mais surtout envers le système. Et c'est là où on se dit que quelque part, le Bitcoin, par effet de bord, devrait aussi en profiter. Et ce papa BTC, aujourd'hui, ben, sur ces 4 mois de baisse consécutive, c'est pas super reluisant. Hein. On est sous la moyenne mobile à 20 mois. On a le petit support, comme vous le savez, intermédiaire autour de 75-76 des points bas d'avril, 0,5 de Fibo à 70 et la moyenne mobile à 50 mois, qui correspond finalement à peu de choses près à la moyenne mobile à 200 semaines, se trouve aujourd'hui autour de 56 000 $. Et la moyenne mobile 200 semaines, pour pas vous dire de bêtises, je vous la donne également, elle sera ici en bleu, on est autour de 58 000 $ aujourd'hui. Donc ça en fait une zone de choix pour attaquer un DCA peut-être un peu plus agressif. Ça permettrait au RSI de reset complètement, au MACD d'ici la fin d'année de reset complètement. C'est exactement ce qu'on veut voir, des oscillateurs qui reviennent toucher le sol. On ne veut pas les voir toucher des points bas extrêmes. On veut les voir se reconnecter à ce qu'ils étaient, c'est-à-dire leur centre de gravité, plus de spéculation débridée autour, et on revient, pour Bitcoin en tout cas, à son coût énergétique intrinsèque, ce qui fait que les mineurs qui ne sont pas profitables des branches, les mineurs qui n'ont pas les reins solides et qui voient l'Eldorado de l'IA vont vers l'IA, et derrière on a une épuration comme ça, une large base ou un W ou peu importe comme on a vu par le passé, et ensuite vous verrez qu'on aura un très très beau bottom du côté du marché crypto. Côté Ether, on est entre la moyenne mobile 20 mois et la 50 qui est juste en dessous à 2500 $, le point pivot long terme comme vous le savez est autour de 2150. 2200, on a une petite trame qui désormais prend 2 points qui pourrait être touchée donc au cours de 2026. Si ça se faisait à l'été, automne, on serait entre 1700 et 1750 et le RSI là aussi risque de revenir tester la zone de support très long terme qui est à 42 et il se trouve aujourd'hui à 48. Côté Treasury compagnie, minière, etc. pour BTC, bien entendu que ça va être de plus en plus difficile. On a Iron qui recule de moins 10, c'est le cas aussi de Hut 8, de Riot, de Wolf moins 8, BMNR moins 6, etc. On a Coinbase à moins 2,23. Pareil, on est sur 4 mois de baisse consécutive. Et on arrive, comme on l'avait vu ces dernières semaines, à la première zone qui potentiellement pour un DCA pour être une zone d'intérêt à 190 $. Donc peut-être que je vais commencer à payer sur cette zone, tout en ayant bien en tête que potentiellement mon objectif final il serait plutôt autour de 100-120 $. Donc clairement on va pas commencer à appuyer très fort sur l'accélérateur, mais ça peut être intéressant au même titre bien entendu que MicroStrategy qui est au contact de la moyenne mobile 50 mois, du gros support long terme des 140 $. Donc je suppose que après là aussi 6 mois de baisse consécutive et des volumes qui sont ascendants sur la descente, donc là on achète clairement un couteau qui est en train de tomber. C'est pas forcément la meilleure manière de procéder bien entendu en termes d'investissement, mais pour ceux qui ont été bercés comme nous à ce marché crypto qui a autant de volatilité et qui ont des petites poches de capitaux comme ça à allouer, que ça soit aux actions liées aux crypto, que ça soit aux minières, que ça soit à Bitcoin ou peu importe, c'est clair que le DCA au long terme, au vu de ces amplitudes de volatilité, ça semble être le moindre mal. Il y en a qui se revendiqueront bien entendu un peu plus sniper et qui profiteront justement de retournements à partir du moment où ils sont actés. Et il y en a encore une troisième catégorie qui achète plutôt dans une uptrend à partir du moment où le marché a confirmé que tout s'était déjà retourné. Donc comme d'habitude, il n'y a pas une solution miracle. Je vous donne plus ou moins ce que je suis en train d'essayer de mettre en place de mon côté, mais à savoir que sur des actions comme MicroStrategy ou toutes celles qui sont liées ici de près ou de loin au marché crypto, peut-être entre parenthèses Coinbase qui aujourd'hui est un petit peu plus solide quelques années plus tard que les autres, mais ça représente vraiment la volatilité absolue par rapport à votre portefeuille à la fois actions et des crypto-monnaies. Côté actions américaines, eh bien on commence à avoir des beaux discounts. C'est le cas pour Microsoft puisqu'on est à 430 $ et qu'on avait double top à 555, donc on est désormais sur du moins 23. On le reverra peut-être autour de la moyenne mobile à 50 mois, 369 $, et le support ici qui avait été longuement travaillé autour de 350 $. Donc pareil, hein, pour du DCA à long terme, à voir ce que ça pourrait donner pour les super sets, et surtout à voir si au printemps-été, on continue de dérouler à la baisse, si on ne va pas avoir notre opportunité de moins 10, moins 20% annuel du côté des gros indices justement. Alors moins 20%, ce n'est pas sur une base annuelle, c'est plutôt 3, 4, 5 ans. Moins 10%, en général, tous les 1 an ou 2, on finit par en avoir un en intra-année qui derrière, la plupart du temps, est gommé au cours de la même année. Également, comme vous le savez, je surveille Netflix. J'ai commencé à rentrer très très doucement, à pas de velours, vraiment tout petit. On a une première zone d'arrêt ici autour de 83 $. La suivante est à 75 et ensuite on a la zone de sortie autour de 70 $. Moyenne mobile à 50 mois à 62 $ alignée au 0,618. Et je pense qu'aujourd'hui, il y aurait quand même assez peu de chances qu'on aille beaucoup plus bas. À ceci près que pour Netflix en particulier, voilà, avec l'acquisition de la Warner et tout ce qui en découlera derrière, c'est plutôt ça en ce moment en termes de questionnement de marché qui est en train d'être pricé. On a Tesla également qui reste haut suite à la espèce de keynote qu'il y a eu et Elon Musk qui annonce la discontinuation, donc l'arrêt de production de la Model S et X qui sont leurs deux modèles haut de gamme. Je pense tout simplement qu'ils n'en vendent pas assez par rapport à la pléthore qu'il y a eu notamment pour la Model Y et la Model 3. Donc c'est un choix qui aujourd'hui me paraît risqué de mon côté puisqu'ils veulent réallouer les chaînes de production pour tout ce qui est robotique et robot taxi autonome. Si le pari s'avère gagnant dans 5-10 ans de temps, Tesla sera la première société au monde à atteindre 10 000 milliards de valorisation. Si jamais ça foire et que ça va pas dans le sens de ce qu'il pensait et qu'on en est encore loin, eh bien malheureusement Tesla se fera planter. Donc aujourd'hui c'est un risque, mais je suppose qu'ils ont là aussi le vent suffisamment en poupe pour prendre ce risque au bon endroit au bon moment. Mais d'un point de vue de l'investisseur et de l'actionnaire, ça reste quand même quelque chose qui risque un petit peu de faire grincer des dents. Côté actions françaises, il y en a pas mal qui sont en train de revenir sur des moyenne mobile long terme. C'est le cas de Sanofi autour de 80 €, donc elle a touché à deux reprises 77. On va voir si on arrive à matérialiser un énorme W ici avec une sortie qui serait sur la moyenne mobile 50 mois autour de 92 €, mais pour l'instant c'est quand même assez dégradé et c'est un secteur bien entendu pharmaceutique et santé qui est spécifique, donc sur lequel il faut aussi avoir souvent les codes. On avait Total Energy qui nous a imprimé un très beau mois en passant de 53 € à 61 €. On est sur une zone dure ici, mais je suppose qu'il aura peut-être l'énergie pour la franchir, et un ATH aujourd'hui pour Total qui se trouve à 70 €. Et on clôturera pour la partie asiatique avec Xiaomi qui est sur la pente méga glissante puisque on est sur le point dur ici de janvier 2021, et si jamais ça lâche, on a peut-être ici un petit support en mensuel autour de 29-30 et par la suite la moyenne mobile 50 mois autour de 23. Donc c'est des actions qui, quand elles corrigent, peuvent corriger pendant longtemps et très fort pour les actions asiatiques. Donc quelque chose à suivre, bien entendu, mais aussi à avoir en tête qu'aujourd'hui, il y a un vrai sujet d'innovation et de technologie pour la Chine en particulier. Les marques comme BYD, Xiaomi, enfin voilà, il y en a bon nombre, et notamment sur les véhicules électriques, les batteries et tout le sujet finalement lié à la robotique. Donc c'est là où on a les demandes du côté des États-Unis avec Tesla et quelques autres, et du côté chinois qui vont venir un peu en collusion dans les 5-10 prochaines années. Et je pense que, comme d'habitude, il y aura un ou deux grands gagnants. Et la question est-ce que ça se passera plutôt du côté des États-Unis ou du côté chinois de la force? Seul le temps et l'avenir nous le dira. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve lundi pour un petit focus du côté de Tether en même temps que l'actualité, bien entendu, à chaud. Donc n'hésitez pas, le petit pouce, le petit commentaire si cette émission vous a plu. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à lundi. Ciao, ciao.